Oui, bonjour. C'est Charles-Édouard à l'appareil. Oui, je voulais savoir quels sont les frais d'admission pour la fac Louis Vuitton. Oui, parce que c'est pour inscrire Louis-Philippe, mon fils. Pouvez-vous me tenir au courant, hein? Merci. Et puis, vivement, les majordomes portables. Voilà, hein? C'était Charles-Édouard de Neuilly. À bientôt, hein? Tenez-moi au courant pour les frais d'admission, hein? Au plus vite. Merci, à bientôt.
Oui, bonjour, c'est Françoise du Limousin. Je suis en train d'écouter votre émission de mercredi, en ce moment. C'est un événement exceptionnel, parce que je suis en plein agnolage, j'ai les yeux pieds dans la merde, et j'aimerais bien avoir un petit peu de réflexologie, vu que je passe 12 heures dans mes bottes en caoutchouc. Mais enfin bref, je voudrais dire que il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume des cieux. Mais j'avoue, en écoutant ça, que les faire finir sur la table d'autopsie, waouh, quel plaisir. Au revoir.
Bonjour, c'est Mathieu, médecin. Je me suis absolument éclaté avec cette émission sur les concierges, enfin majordome, butler, faite par Pascal Pascariello. Vraiment, c'est... je me marre. Hein. Vous avez quand même trouvé... le concierge, précieux, mais dans toute sa splendeur, hein, et adepte des périphrases. Non, il n'y a pas de pauvres, il n'y a que des gens qui ne sont pas aisés, ou qui n'ont pas assez, qui ne profitent pas, les riches et ceux qui profitent. Enfin bref, du délire, pas chose simple. Je pense que le bonheur, ça ne s'achète pas. Bon, je suis médecin. Mais bon, je gagne pas autant que votre chirurgien esthétique, hein. Il faut quand même rappeler, parce que ça m'a un peu choqué que, en ouverture, il y ait un médecin dans votre émission. Bon, il y en a sûrement. C'est sûr qu'il n'y a pas d'ouvrier de chez Renault, mais qui prennent les services d'un majordome. Mais je pense que, bon, nous, les médecins, même si on gagne très bien notre vie, on n'a pas quand même, c'est pas quand même comparable à la plupart des gens qui sont là. Enfin bon, ce que j'adore aussi, c'est le coup de Sarko, là. Pascal Pascariello, en pleine forme. Il n'a pas été payé par Barrière Fouquet pour faire la pub. Ça, c'était fort. Hein. Je sais pas si elle sera reçue, elle, une nouvelle fois, hein, par Monsieur Speedman. Bon, allez. Oh là là. Yeah. Faut pas vous accorder d'interview à vous. Sauf si on est du bon côté. Allez, au revoir.
Oui, salut Daniel, c'est Florent Besançon. Dis, j'ai écouté ton émission d'aujourd'hui. C'est pas possible. Ceux que t'as interviewés, ils ont jamais écouté une émission de là-bas. Si j'y suis. Attends, moi je serais blindé de thunes. Jamais, mais jamais j'accepterais qu'une de tes équipes vienne m'interviewer, puisqu'on sait, le message que ça laisserait passer. Mais c'est très bien, hein. Tu vois, c'est un petit peu comme si les Rothschild invitaient Arlette Laguillier et tous ses copains à venir passer un week-end chez eux. Et puis autre chose, le thème que tu as développé, il serait passé sur TF1 en milieu de soirée, j'imagine bien, il aurait été traité de telle façon qu'à la fin, bah, le spectateur, il se dirait « Bah ouais, je suis vraiment qu'une merde, quoi, voilà la vraie vie, voilà les personnes qui réussissent. » Alors que toi, quand on écoute ton émission, bah écoute, on a envie de descendre dans la rue, puis voilà, continue, t'arrête pas, hein. Salut.
Oui, bonjour. Je viens d'apprendre une grande victoire des défenseurs de la nature. Total condamné à payer 192 millions d'euros. Bon, j'ai fait un petit calcul. 15 milliards de bénéfices nets en 2007, soit 1 milliard 250 millions par mois. Bon, 192 millions, ça fait à peu près 4 jours de bénéfices. Bravo! La prochaine fois, promis, on les prive de les faire. Allez, ciao, à plus.
Bonjour à tous. Je viens d'écouter votre émission et je vous donne une info. Aujourd'hui, j'ai justement appris que le grand centre Leclerc de ma ville, entre Noël et le 1er de l'an, a fait 9000 caddies en moins que l'an dernier. Et j'entends dans votre émission que consommer, c'est exister. Je viens de lire sur le Canard enchaîné du 16 janvier... d'aujourd'hui, que dans son discours en Arabie Saoudite, notre président avait évoqué Dieu 13 fois. Alors il reste plus aux petits Français qu'à prier pour exister.
Eh oui, merci pour vos messages, chers AMG, auditeurs modestes et géniaux. Eh oui. Vous avez adoré l'émission d'hier. Je dis ça en toute modestie, mais c'est vrai, vous avez adoré. Et aujourd'hui, on continue. On continue parce qu'il y a un temps pour l'action, si vous voulez, et puis un temps pour la réflexion dans la basse, et j'y suis depuis des années. Il y a un temps pour l'action et un temps pour la réflexion. L'action, c'est la jungle, c'est les massacres, la Tchétchénie, Clichy-sous-Bois, enfin bref, c'est l'action. Et puis, il y a un moment pour la réflexion. Et qu'est-ce que c'est que la réflexion ? C'est un dialogue, par exemple, avec un chercheur, avec un sociologue, avec un philosophe, un auteur, voilà. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est la réflexion. Alors, dans l'ordre de la réflexion, dans la base où j'y suis, on a rencontré Jean Baudrillard, Cornelius Castoriadis, Edgar Morin, etc. Eric Hobsbawm, Noam Chomsky, et aujourd'hui, c'est Éric Brunet. Alors, qui est Éric Brunet ? C'est la réponse qu'on va vous donner avec Renaud Lambert d'ici à 16h. Pour résumer quand même un peu, Éric Brunet est un croisé. Ce type est en croisade. Et sa croisade, eh bien, c'est les riches. Contre les riches ? Non. Au contraire, pour la défense des riches. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans notre pays, les riches sont persécutés, les riches sont humiliés, les riches sont harcelés. Françaises, Français, vous êtes richophobes. Non au racisme anti-riche. Rich is beautiful. I am rich and I am proud. C'est ce que vous direz si vous êtes riche. D'ici à la fin de cette émission, vous avez compris, c'est encore une heure entièrement bling-bling et entièrement décomplexée. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés avec entêtement dans la boîte vocale de la basse, j'y suis au 01 56 40 37 37, bande de pauvres.
Oui, bonjour à tous. Rendez-vous à Briouze, entre Flers et Argentan, dans le 61, ce samedi matin à 11h, devant le commissariat, pour soutenir Michel Delaunay, faucheur d'OGM, convoqué pour un prélèvement ADN. Je répète, à Briouze, donc à 11h du mat, voilà, ce samedi. Merci beaucoup, à samedi, au revoir.
J'entends actuellement les infos sur France Inter. Et je suis sidéré, j'ai entendu l'avocat de Total qui est en train de pleurer, parce que Total, je sais plus, l'année dernière, 11 ou 12 milliards, toi tu dois le savoir, 11 ou 12 milliards d'euros de bénéfices, je te raconte pas le chiffre d'affaires, a payé 375 000 euros d'amende, les pauvres malheureux, les pauvres chéris, c'est clair que ça va les gréver, hein. 375 000 euros, c'est 12 mois de salaire de notre président, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins. Enfin bon, c'est clairement 10 mois de retraite de Monsieur Chirac. Donc ils vont pas nous faire un pavé, Total. Ça va bien. Salut.
Amis du Repère de Nantes, vous avez de la chance. Ce n'est pas un, mais deux rendez-vous que nous vous proposons pour débuter 2008. Au programme, le Repère de vendredi 18, à partir de 19h, au Méliès. Tout près du cinématographe, mais aussi la conférence organisée par les Amis du Monde Diplomatique avec Raoult Marc Génard, le jeudi 24 janvier à 20h30, Faculté de Médecine, Amphineuf, rue Gaston Veil. Au premier rendez-vous, nous parlerons du mini-traité européen. Au second, nous écouterons sagement la conférence sur le même sujet. Alors, à vendredi 18 janvier, à partir de 19h, au Méliès. Venez nombreux.
Bonjour Daniel, bonjour les auditeurs, c'est la compagnie Jolie Môme. Alors on vous appelle car on fait notre rentrée spectaculaire. On vous présente Alerte, Gaïa et Prométhée. Gaïa, c'est la terre-mère, la nature quoi. Prométhée, lui, c'est la science, le progrès, l'émancipation des êtres humains.
Oh, il pourrait filer le grand amour, ces deux-là.
Mais un certain Hermès a soif de pouvoir.
Hermès, le dieu du commerce.
Et des voleurs.
Et voilà. Nous étions sagement partis dans la mythologie grecque,
mais on n'a pas pu s'empêcher. Bon, bah, alors nous jouons dès le 17 janvier à la Belle Étoile. À la Plaine Saint-Denis, le métro c'est Porte de la Chapelle, le numéro pour réserver c'est 01 49 98 39 20 et notre site c'est www.cie-joliemôme.org. À très bientôt, salut!
Selon nos calculs, en 2005, il aurait perçu par mois plus de 9 millions d'euros, près de 13 000 euros de l'heure. Mais il n'admet pas que l'on puisse trouver ces sommes exagérées.
Je pense qu'il faut que des fortunes puissent se bâtir. Je pense que nous avons tous le droit de devenir riches. Plus il y a de riches, et moins il y a de pauvres. Vous parlez à un libéral, hein ?
Je suis un libéral.
Moi, je suis libéral au sens...
Au sens où je crois à la liberté.
Ben, idéologique.
Mais je suis également un humaniste.
Dis-moi ce que tu gagnes, je te dirai qui tu es.
2600 francs, je parle en francs, mensuels, net.
Mais c'est comme ça, c'est la réalité du monde libéral.
Par exemple ?
Nous pensons, par exemple, que le coût du travail peu qualifié reste très élevé en France et que ça gêne les embauches.
Donc ça, c'est votre fiche de paye de septembre. Alors en haut, il y a marqué Carrefour. Et en bas, combien vous êtes payé ?
Net, 837,63 €.
Le capitalisme n'est pas parfait, mais juste, il faut en accepter les règles.
Ouais, si j'étais...
Riche.
Salut, c'est Daniel Mermel. Je suis avec Renaud Lambert et Éric Brunet. Être riche, un tabou français.
Flight number 2, arriving from New York.
Gorbatchev, il y a un mois et demi, donnait une interview et il s'est amusé des Français. C'est très étonnant d'ailleurs. Il n'était pas en France, hein. Il était, je ne sais où, en Asie du Sud-Est. Et il s'est amusé des Français en disant que le seul pays vraiment de gauche avec la Corée du Nord, c'était la France. Et je crois que, bon, derrière la boutade, il y a un peu de vrai. C'est-à-dire que cette vision que nous avons de l'argent, de l'entreprise, de la croissance, de la mondialisation, de l'économie de marché, du capitalisme, eh ben, elle fait que, oui, nous demeurons un pays au sens de l'idéologie, quel que soit le régime politique. Nous demeurons un pays qui est ancré dans une vision extrêmement égalitaire, révolution française, de gauche, oui. Alors, finalement, cette idéologie que nous professons depuis si longtemps, eh bien, elle nous tient un peu éloignés de la réalité économique. C'est pour ça que les Français jugent mal le capitalisme. Parce que pendant que nous faisons de l'idéologie, pendant que nous disons il faut répartir, il faut tous gagner à peu près la même chose, eh bien, on n'apprend pas la science économique. Et c'est encore une fois très grave. L'immense majorité du corpus des enseignants d'économie sont des gens qui sont marqués encore par les théories marxistes, keynésiennes ou post-marxistes. Et c'est pas anodin. Comment voulez-vous qu'un jeune, qu'un moins jeune, qui est exposé en permanence au petit téléfilm avec la ritournelle anti-fric, qui a été à l'école, primaire, au lycée, au collège, à l'université, avec cette idéologie, toujours... un peu de gauche, un peu humaniste, un peu... Il faut mieux répartir l'argent, il faut en finir avec l'argent de Total et les 12 milliards de bénéfices qu'on ne répartira pas avec les salariés. Eh bien, les gens qui sont au contact de cette idéologie deviennent peu à peu, bon, idéologisés, c'est un fait, mais surtout moins matures sur les questions d'argent. Alors c'est là qu'on voit fleurir, eh bien, des sondages édifiants. Hein. 61% des Français, sondage 2006, considèrent que le capitalisme n'est pas un bon système pour la France. Et alors, c'est très rigolo, parce que ce sondage a été fait dans le monde entier, et on est dans les 10-15 pays les plus anticapitalistes du monde. Et c'est très étonnant, parce qu'il y a des républiques islamistes, etc., qui sont plus idéologiquement enclines à aimer l'économie de marché que nous. C'est-à-dire que nous, on est vraiment, je ne sais pas, on doit être encore une fois avec la Corée du Nord et Cuba et peut-être Hugo Chavez. dans cette idéologie anti-fric. Donc, effectivement, les Français, quand ils parlent de leur chef d'entreprise, eh bien, ils vont les aimer s'ils sont vertueux, hein. C'est-à-dire que le chef d'entreprise devra renoncer à ses dividendes, il devra, je caricature, se payer au SMIC, il devra, voilà, prendre des emplois aidés, des handicapés dans son entreprise, etc. Il devra considérer que le profit n'est pas important, il devra donner de l'argent à des œuvres caritative, bon voilà, il devra être très vertueux comme ça, mais bien évidemment ne pas faire monter ses employés au mérite, parce que le mérite c'est la subjectivité qui rentre dans l'entreprise et c'est par conséquent très dangereux. Bon, moi je pense qu'on est sur un quiproquo dramatique et c'est très difficile en même temps d'évoquer ce sujet de façon libérée, parce que je me suis rendu compte, moi, dans des débats auxquels j'ai participé, que c'est tellement passionnel. Et on est tellement face à des gens qui sont immatures sur ce sujet-là. Donc, encore une fois, on est sur un travail culturel très lourd à accomplir.
Eh oui, un travail très lourd à accomplir, mais on est là pour ça. Nous autres, France Inter, là-bas, si j'y suis, ce travail culturel très lourd, nous l'accomplissons chaque jour. Et nous allons l'accomplir à nouveau aujourd'hui avec Éric Brunet. Être riche, un tabou français. Avec Éric Brunet, nous allons essayer de vous rééduquer. Alors, je vais commencer par un petit test. J'ai là un article sorti dans le journal en ligne Bakchiche qui nous apprend, le titre de ce petit papier, c'est « La reine Christine pige à 120 000 euros ». De quoi s'agit-il ? Christine O'Krent est très bien payée pour assurer une chronique hebdomadaire de 3 minutes en deux langues sur France 24, chaîne sous tutelle de son compagnon, le ministre Bernard Kouchner. Donc voilà, Christine O'Krent va se faire 120 000 euros par an pour deux fois 3 minutes, une chronique qui sera traduite en anglais. Donc c'est 3 minutes plus la traduction qu'elle fera elle-même parce qu'elle parle parfaitement anglais. Voilà, elle va se faire 8 ans de SMIC chaque année. Voilà, et tout ça protégé par son ministre de compagnon, Bernard Kouchner. Alors maintenant, nous regardons nos écrans, nous regardons ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Vous êtes indigné, voilà. Vous êtes scandalisé, vous êtes indigné, vous vous pincez le nez, vous ricanez, enfin, etc. Eh bien, tout ça, c'est mauvais. Ce sont de très mauvais réflexes. Il faut applaudir, il faut dire « Ah, formidable, elle est géniale, elle est super, elle est belle, elle est... » Vous voyez, il faut aimer les riches. Et c'est le boulot auquel s'est attelé Éric Brunet, « Être riche, un tabou français » chez Albin Michel. C'est pas n'importe quelle maison d'édition qui sort cet ouvrage. Alors, c'est pas facile, hein, c'est pas facile de retourner comme ça toute une culture, la culture de... Regardez, par exemple, le général de Gaulle, vous voyez, ce grand type, cette espèce, qui disait « Mon seul adversaire, celui de la France, n'a aucunement cessé d'être l'argent. » Et ben voilà, c'est ce qu'on a encore dans la tête, c'est ce que le général nous a mis dans la tête à tous, de gauche, de droite, etc. C'est que l'argent, c'est mal. Et surtout, c'est que les riches sont des gens dont il faut se méfier, qu'il faut mettre à l'écart, et qui aujourd'hui, si on regarde bien, vivent dans un ghetto. Mais oui, regardez comment ils s'habillent, les riches, avec des jeans déchirés, vous voyez, ils essayent de passer pour des pauvres, ils sont obligés de passer pour des pauvres. Ils ont des, comment ça s'appelle, vous savez, des baskets, par exemple, des baskets. Ils sont obligés, ils ne peuvent pas vivre comme ils en auraient envie, comme chacun y a droit sur cette terre et sur cette planète. Donc, là-bas, si j'y suis, a défendu beaucoup de catégories sociale, de gens opprimés, victimes, etc. Aujourd'hui, nous partons en guerre pour les riches avec Éric Brunet. Merci, là-bas, si j'y suis.
Ouais, si j'étais...
Riche.
Réussir sa vie, c'est traverser un océan. Sans savoir pourquoi ni pour qui, à l'aventure tout simplement. C'est d'être un président ou bien n'importe qui, et de prendre le temps d'aider un ami. C'est de gagner en bourse comme on jouait aux billes, et de finir sa course le soir en famille. Réussir sa vie, c'est d'abord choisir, c'est d'avoir envie de tout devenir. Réussir ta vie, soit poète ou soit paysan, moitié méchant, moitié gentil, à l'aventure évidemment. Réussir ta vie. Réussir ta vie.
Excusez-moi d'intervenir, mais je crois que vous avez les mêmes questionnements. Enfin, en tout cas, moi, j'ai une question à vous poser. Dans quelle occasion on peut porter ces colliers, enfin...
Ben moi, ce soir, par dans exemple, je peux porter ça.
Ben, ce sont pas des bijoux pour tous les jours. Non,
ni pour tout le monde. Mais c'est pas important.
C'est un autre monde, c'est un autre univers. C'est des gens qui ont des chauffeurs, qui se déplacent avec des gardes du corps. Ou le jour où ils n'ont pas envie de se déplacer avec des gardes du corps, ils ne vont pas porter ce collier. Vous pouvez les voir en jogging, au bois de Boulogne, avec leur chien. Et
si
c'est
vous voyez
sûr
ça dans le métro, vous pouvez penser que c'est une fantaisie.
Quand je prends le métro, je dois faire une croix dessus. Donc.
Oui, mais pas parce que vous prenez le métro, parce que les gens qui sont dans le métro ne sont pas forcément des gens comme vous ou comme moi, et qui vont vous arracher le cou pour vous prendre vos affaires. Voilà.
Bon, on continue nos courses.
Voilà, on peut pas porter un collier de chez Boucheron dans le métro. On risque de se faire couper le cou. Eh bien, c'est inadmissible. On ne peut pas faire son jogging dans le bois de Boulogne avec ses bijoux librement, etc. Eh bien, voilà, c'est inadmissible. Et c'est une phrase qu'on a entendue hier dans le reportage de Pascal Pascariello. C'est absolument... et ça vous a interpellé, bien évidemment. Pourquoi ces gens seraient-ils victimes? Vous avez tout dans la vie, hein. Vous êtes richissime, vous êtes beau, vous êtes jeune, vous avez tout est à vous, vous faites ce que vous voulez, etc. Mais il vous manque quand même ce petit truc formidable, c'est d'être une victime. Alors ça, c'est formidable parce que ça, d'abord, vous n'avez plus jamais aucun problème de mauvaise conscience, bien évidemment, puisque c'est vous la victime, et vous êtes respecté, vous êtes protégé, vous êtes défendu, extraordinaire. Non, eh bien, Éric Brunet a trouvé. Riche, le riche est... voilà, les riches vivent dans des ghettos, les riches sont persécutés, et il faut vraiment les aider à reprendre leur place. C'est l'époque que nous vivons, on en a parlé hier. Nous avons un président qui est le président des riches, l'ami des riches, qui aide les riches, qui finance les riches, qui leur donne, qui prend aux pauvres pour donner aux riches. Voilà, mais quand je dis ça, il faut comprendre Éric Brunet. Le raisonnement d'Éric Brunet, c'est de dire, écoutez bien, plus il y a de riches, moins il y a de pauvres. Voilà, c'est il a mis 250 pages pour nous expliquer ça. Et c'est quand même 253 pages, 18 euros. Pour ça vaut quand même le coup. Il est malin, Éric Brunet, en vérité. C'est un monsieur qui fait de la télévision, qui est un animateur de télévision. Pas connu, pas très remarqué non plus. Mais il est malin parce qu'il a vu comment ça se passe et il a compris qu'il manquait un créneau. Vous savez, sur ces plateaux où il y a plusieurs invités qui bavardent, etc., qui s'envoient des pics, ça marche très bien, ce type d'émission. Ça marche très, très bien en radio avec les grandes gueules sur RMC. Les autres essayent de copier ça comme ils peuvent. Et il manquait ce créneau-là. Il manquait ce personnage. C'est comme des petites comédias dell'arte. Il y a celui qui gueule, qui est machin, qui est de gauche, qui est de droite, etc. Et il manquait le type qui défend les riches. Celui qui dit « Rich is beautiful » dans son coin. Il manquait. Et ben Éric Brunet, il a eu la bonne idée, pour se faire inviter sur ses plateaux, d'écrire un bouquin. C'est comme ça que vous êtes invité sur les plateaux. Il faut d'abord écrire un bouquin, et après vous êtes invité, puis après vous devenez, comme Philippe Val, par exemple, un professionnel des plateaux. Vous allez d'une émission à l'autre, top, on vous maquille, et puis vous lancez quelques pics. C'est un truc, un coup à prendre. Il faut être vif, il faut les balancer au bon moment, etc. Et c'est un job comme un autre, et c'est ce que Éric Brunet essaye de faire avec ce livre-là, après avoir eu un bon succès avec un livre qu'il a sorti au bon moment, au printemps dernier, qui s'intitulait « Être de droite, un tabou français ». Donc là, c'est « Être riche, un tabou français ».
Éric Brunet, vous êtes l'auteur de « Être riche, un tabou français » aux éditions Albin Michel. Est-ce que vous êtes riche ?
Alors moi, bien évidemment, quand j'ai écrit ce livre, il a fallu que je fasse mon coming out et que je brise un vrai tabou. Et je me suis dit, il va falloir que tu avoues. Parce que alors, moi, je gagne entre 5 500 et 6 000 euros net. Donc, je suis riche, selon la formule de notre ami François Hollande, qui considérait qu'on était riche à partir de 4 000 euros. Voilà, donc voilà, je fais partie des riches. Et je pense qu'il faut absolument qu'on réussisse à dire, en France... combien on gagne? Et le jour où on sera parvenu à ce stade, ma foi, on aura fait, à mon avis, la moitié du travail. L'argent, dans une société comme la nôtre, qui est une société très clivée, avec des races, des cultures, des religions différentes, tout cela au sein de notre République française, eh bien, finalement, je me dis que l'argent peut redevenir un argent vertueux, en tout cas égalitaire. Et il faut en parler avec des gens qui travaillent aujourd'hui dans le monde caritatif, par exemple, pour découvrir que il peut faire des choses éminemment bénéfiques, et pour découvrir surtout, parce que sont ces gens-là qui travaillent dans vraiment l'univers caritatif, qui en parlent de façon le plus décomplexée. Et ils ont compris, peut-être sont les seuls en France qui ont compris que plus l'argent irriguerait notre pays... et moins il y aurait de pauvres. Et malheureusement, on n'est pas tout à fait dans ce schéma culturel en France. Je crois qu'on est encore sur cette vision du 19e, qui considère que plus il y a de riches, et plus ils se constituent sur le dos des pauvres. Ce qui est absurde. On a dépassé ça depuis 100 ans. Aujourd'hui, je le répète, plus il y a de riches, et moins il y a de pauvres.
Pour beaucoup de gens, ça va sembler un paradoxe. En général, on dit, bah voilà, lui a plus d'argent, lui en a moins, voilà les inégalités. Et vous nous dites, non, l'argent peut, au contraire, être source d'égalité.
Eh bien, l'argent revêt une vertu quasi exemplaire, et surtout, il s'installe là où on l'attendait pas. C'est-à-dire qu'on a toujours cette espèce de discours un peu commerce équitable, voilà, un peu teinté de Greenpeace et de José Bovisme, qui amène à vilipender, bon, le grand capital, etc., Total et ses 12 milliards de bénéfices. Et en réalité, on se rend compte que concrètement, dans les quartiers, quand je dis dans tous les quartiers, qu'ils soient bourgeois ou pauvres, eh bien, on se rend compte que cet argent-là, il c'est simplement un trait d'union et qu'il concourt à faire en sorte que un type regarde son voisin alors qu'il n'aurait pas regardé en temps normal, parce que ce voisin accomplit un travail qui fait que il est payé soudainement cet argent-là, eh bien il devient facteur d'unification sociale.
C'est ça, c'est-à-dire que dans une société de préjugés, de tabous, d'idées préconçues, l'argent constitue donc une espèce de pierre de touche pour appréhender, juger de la valeur de quelqu'un.
Tout à fait. Par l'argent, dis-moi ce que tu gagnes, je te dirai qui tu es. Par l'argent, mais on se rend compte que un homme reconsidère un autre homme. C'est-à-dire que vraiment, moi j'ai cette conviction profonde qu'il est en train de se passer en France, en ce début de troisième millénaire, ce qui s'est passé dans les États-Unis des années 30. C'est-à-dire qu'on a des petits ghettos de population, j'utilise le terme ghetto de façon un peu abusive bien sûr, mais en tout cas, on a des populations très clivées, pour des raisons d'habitude de vie, de quartier, et de race, de religion. Et soudainement, eh bien, cet argent, cette entreprise-là, hein, Big Brother, qui va employer 1000 ou 2000 salariés dans une banlieue ou au cœur de Paris ou en province, eh bien, cette entreprise, elle va générer du lien social, et surtout, elle va unifier des populations qui ne se seraient jamais parlé en temps normal, tout simplement parce qu'elle va considérer de façon extrêmement, allez, cyniquement économique, que le travail accompli par Monsieur Durand, par Monsieur Bensoussan ou par Karim, eh bien c'est le même, et que par conséquent ces trois employés gagneront la même somme. Et ça, l'impact de cette notion-là, il est fondateur à mon avis. Il est fondateur et il est éminemment plus, comment dire, républicain et laïque qu'on pourrait l'imaginer.
Bernard Tapie, 39 ans. Propriétaire d'un groupe de 42 entreprises et 8000 salariés. Chiffre d'affaires annuel, 5 milliards de francs lourds. Son ambition, devenir dans quelques années l'un des tout premiers patrons de France.
Et moi j'assume, je suis un vrai capitaliste, qui vit comme un capitaliste. Moi j'ai le droit au profit, je me le donne ce droit. Ça veut dire que j'ai le droit d'avoir un jet, je l'ai gagné.
L'exemple le plus parfait, c'est Total. À chaque fois que Total, chaque année, divulgue ses résultats, bon, alors là, c'est haro sur le baudet. On est vraiment dans l'obscénité. On nous raconte que c'est insupportable. Alors là, c'est 12 milliards d'euros de bénéfices. Bon, alors, il faut écouter les radios, les télévisions, lire les journaux dans les jours qui suivent la publication de ces 12 milliards de bénéfices. C'est vraiment le capitalisme dans sa version la plus cynique qui crache à la gueule du peuple de France qui souffre. On est dans cette vision, c'est Eugène Sue, c'est Émile Zola. Alors qu'en réalité, bon, pourquoi ne le disent-ils pas? Je sais pas, mais en réalité, bon, tout le monde sait, les gens un peu documentés savent que ces 12 milliards, s'ils sont pas réemployés, mais dans les mois qui suivent, pour trouver de nouveaux forages, pour redéployer une activité sans cesse menacée par le jeu du capitalisme mondial et par les grandes majors pétrolières américaines, hollandaises, anglaises, etc. Si Total ne veille pas au grain en permanence, n'investit pas en permanence, ne trouve pas de nouveaux forages en permanence, ce fleuron de l'industrie pétrolière française ne figurera même pas au banquet des survivants à Noël. Donc, il y a une obligation, c'est une course vers l'avant, c'est le jeu de l'économie de marché, nous ne l'avons pas choisi. Mais si nous voulons être bons, il faut en accepter les règles. Et je trouve tellement incongru, stupide, que les tenants du commerce équitable, que la gauche un peu démagogique viennent attaquer Total là-dessus. C'est stupide. Et en même temps, c'est tellement facile. Mais il serait tellement plus compliqué pour un journaliste ou pour un politique d'expliquer ce que je viens d'expliquer. C'est juste, attention, le jeu de l'économie de marché n'est pas si simple que ça. Ces 12 milliards de bénéfices, c'est pas des patrons qui vont se les mettre dans les fouilles en faisant un bras d'honneur au prolétariat français. C'est pas du tout cette équation-là qui est la bonne. La bonne, c'est que c'est un fleuron magnifique qui emploie des gens. En France, beaucoup à l'étranger, vous avez raison, mais qu'on n'a aucune raison de le détruire et que répartir ces 12 milliards n'a pas de sens. Il faut au contraire que la société devienne plus forte, plus puissante, qu'elle se redéploie, etc. Voilà. Le capitalisme n'est pas parfait, mais juste, il faut en accepter les règles.
C'est vrai que l'égalitarisme, c'est quand même une pathologie française, parce que derrière l'idée de l'égalité, qui est belle, à mon avis, qui est parfaitement désuète et stupide, mais bon, elle est pleine de noblesse, mais derrière cette idée-là, il y a des dommages collatéraux terribles. En France, on ne sait plus gagner d'argent. Nous ne savons plus, parce qu'on ne nous a pas appris à gagner d'argent. Hein. À force de ne pas magnifier les trajectoires qui sont belles, d'entrepreneurs, on en vient à donner l'envie à ces gens de quitter la France parce que il y a vraiment une relation de désamour très forte. Quoi. On est dans le désamour. La France n'aime pas ses riches et au-delà de ses riches, elle n'aime pas ces petits héros du quotidien, qui ont réussi, qui ont généré de la croissance, qui ont employé des gens, parfois avec une administration un peu pesante, hein, qui leur a pas facilité la tâche. Moi, j'en ai croisé beaucoup de ces petits héros du quotidien, et j'en ai croisé beaucoup qui sont partis hors de nos frontières, et qui sont partis avant l'élection de Nicolas Sarkozy, et qui sont partis aussi après. Ah, ça, c'était singulier. Partir après, moi, ça m'intéressait d'interviewer ces gens. Et je me suis rendu compte que ils sont partis parce qu'ils se sont dit que les mesures, les mesurettes, vous savez, le paquet fiscal, n'allaient pas changer grand-chose. Et que Nicolas Sarkozy n'allait pas pouvoir mettre un terme à des siècles d'atavisme français. Et ils m'ont tous dit la même chose, ceux qui sont partis. On est partis, oui, pour des raisons fiscales, c'est vrai. C'est vrai, mais pas que ça. On est partis parce qu'on ne nous aimait pas. Et je me souviens du témoignage de ce chef d'entreprise. Là, il est à Londres aujourd'hui, et il m'a dit, mais maintenant, tout est fluide, tout est beau. J'ai économisé un peu d'argent, oui. Pas beaucoup, un peu, en allant à Londres. J'ai renoncé à des choses très importantes pour moi, qui sont mon rugby et ma culture cassoulet. Je vous parle d'un chef d'entreprise du Sud-Ouest. Mais j'ai gagné quelque chose d'incroyable, c'est que tout est fluide autour de moi. On me donne de la facilité, on me donne de la considération, on me donne de l'amour. Et ça peut vous paraître étrange, quasi psychanalytique, mais ces chefs d'entreprise qui s'en vont
et qui disent le mot amour, qui disent je gagne de l'amour, c'est édifiant. Mais oui, bien sûr, ils quittent la France à cause de ce désamour, parce que ces gens-là, s'ils montent des boîtes, c'est aussi hein, pour être gratifié. Hein. Quand on est chef d'entreprise, on a un ego quand même. Bon, on crée une boîte, etc. On a besoin d'être caressé dans le sens du poil et d'être gratifié. Mais ces gens-là n'étaient pas. Et c'est drôle. Hein. Moi, je m'attendais à ce qu'on parle de techniques fiscales, etc. Et ils m'ont tous parlé d'amour. Bon, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières avec la souffrance du riche. Mais c'est vrai que, bon, ces gens sont des gens, je le dis clairement, en souffrance. Parce que ils en avaient assez de ne pas être les petits héros d'une société qui aurait dû les gratifier davantage.
C'est la France qui doit rappeler au monde que le capitalisme a besoin pour être accepté de répondre à une exigence spirituelle et une exigence morale. Je suis un libéral au sens où je crois à la liberté.
Welcome to my world.
Vous savez, nous on a acheté une maison l'année dernière, il y a 2 ans à Saint-Tropez. C'est allé acheter une maison sur un golf, le nouveau golf de Gassin à Saint-Tropez, qui est quand même extraordinaire, qui est la position.
Dubaï, 30 mai 2006.
On l'a acheté, on est venu ici, c'était le moment où on pouvait acheter ici en tant qu'expatrié. Donc on a vendu la maison tout de suite, qu'on venait d'acheter, et on a acheté 2 maisons ici. Et on n'achète pas le terrain, on achète la maison. Hein. Et dans mon cas où j'ai acheté une maison sur la mer, sur Piloti, on n'achète pas la mer non plus. On achète la maison. Voilà.
Vous avez acheté une maison sur Piloti ?
Oui, sur le deuxième palme. C'est sympa, hein ?
Et quand est-ce qu'elle sera livrée, votre maison ?
On parle dans 4 ans.
Vous avez le temps de la revendre 5 fois d'ici là, non ?
On a déjà fait...
C'est un placement ?
Ah oui, complètement. Ouais. Déjà, c'est un bon placement. Même là, si elle n'est pas construite, même là, si je décidais de la vendre, c'est un très, 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 très bon placement.
Vous avez fait combien de plus-value déjà ?
On l'a acheté pour 2 millions de dirhams et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait la vendre pour 7.
C'est pour ça que les gars nous racontent qu'ils nous montrent des maquettes et ils nous disent on a déjà vendu la moitié ou le tiers, enfin. Ça veut dire que entre la maquette et le gars qui mettra vraiment les clés dans l'appartement...
pour revendre, bien sûr. Ouais.
C'est ça, il y aura 4 ou 5 fois la culbute.
Il y a des investisseurs, oui, bien sûr. Ouais. On a eu une opportunité d'acheter sur plan au départ. Il fallait y croire. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de gens d'expatriés qui n'y croyaient pas en disant « Attendez, arrêtez là ». Mais il fallait y croire. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Il y a un charisme, il y a une aura sur ce pays qui est extraordinaire. Vous devez le sentir d'ailleurs, vous devez le vivre. Il y a un tel optimisme ici, un tel développement, il y a un tel respect pour le pays et puis pour les gens qui le gouvernent. Le pays vit en harmonie, vraiment. Hein. Il y a un énorme respect des dirigeants, des princes, de la famille royale ici. Énorme. Et qui nous rend bien. Hein. Qui nous rend bien. Je veux dire, on vit très, très, très bien. Tant qu'on respecte la loi. Alors vous avez toujours ceux qui ne sont pas contents, il y a toujours ceux qui sont mieux chez eux, il y a toujours ceux-là, mais ça, ceux-là ne sont bien nulle part de toute façon. Par contre, si vous voyez d'autres Français, vous allez voir que les Français en général sont contents d'être là. Hein. Vraiment, vie en harmonie, je veux dire.
Dire du bien de l'argent, c'est signifier... Ma foi, qu'on est vulgaire, qu'on est ordinaire, qu'on est un abruti, qu'on est un matérialiste, et c'est finalement rentrer en opposition avec tout ce qu'on nous dit depuis toujours. C'est extrêmement choquant de parler d'argent. Moi, parfois, ça m'arrive dans des réunions, des dîners. Ça choque terriblement les gens. Les gens n'aiment pas ça. Ils trouvent ça vulgaire et, encore une fois, très commun. Donc, on est vraiment... C'est diablement iconoclaste, d'ailleurs, de parler d'argent. Il faudrait... que nous retrouvions la voie de la sagesse, que nous montrions du doigt les belles trajectoires, les sagas d'hommes d'entreprise qui ont réussi des choses fantastiques. Et la pathologie la plus grande que nous avons, c'est que nous sommes le pays le moins démocratique au monde pour devenir riche. Si on observe nos riches, d'abord, ils sont moins nombreux que dans l'Europe entière. Il y a plus de 50 milliardaires en Angleterre, plus de 50 en Allemagne, il y en a beaucoup en Espagne. Chez nous, il y en a une quinzaine. Bon, il faudrait que la richesse soit démocratique. Il faudrait que n'importe quel type qui ait envie d'être riche puisse, avec du talent et de l'astuce et un peu de chance, réussir à être riche, quoi. Et c'est impossible. Il n'y a pas en France de trajectoire de riche, de vrai riche, qui soit accompli ces 20, 30 ou 40 dernières années. J'adorerais qu'en France, il y ait des nouvelles fortunes qui viennent du monde de ce que vous voulez. Et pourquoi pas des spéculateurs, on s'en fiche, mais que tout cela foisonne. Parce que ça, c'est très français. Hein. Ah oui, oh là, chef d'entreprise qui vend des boîtes d'allumettes, très bien, ah, il vend des boîtes d'allumettes, il en fait plein, il gagne un centime d'euro de bénéfice sur chaque... Puis au bout de 10 millions de boîtes d'allumettes, voilà, ça fait de l'argent. Alors ça, on se dit, bon, alors les boîtes d'allumettes, on les fabrique, bon, il a monté l'usine, alors, bon, ça, c'est du bon argent. Surtout si le gars est sympa, surtout si le gars redistribue ses bénéfices. Ah, mais alors en revanche, là, le spéculateur, c'est la pire des choses. Alors, le spéculateur, on est un peu dans l'idéologie d'avant-guerre. Hein. Le spéculateur, excusez-moi, c'est un peu le juif d'avant la guerre. Hein. On est là-dedans, d'ailleurs. Il faut parfois remplacer les mots quand on écoute José Bové, quand on écoute Besancenot parler de l'argent. Il faut parfois faire l'effort intellectuel de remplacer les mots et le mot riche, parce que c'est le seul mot, finalement, le mot riche, sur lequel on peut encore pratiquer le racisme. Comment François Hollande, en pleine campagne électorale au mois de juin 2006, peut-il dire sur France Télévisions, le service public, dans une émission sérieuse, politique, « Je n'aime pas les riches, j'en conviens ». Comment peut-on dire ça ? Remplacer les mots. Comment peut-on dire « Je n'aime pas les riches » ? Ça veut dire quoi ? Que le premier secrétaire d'un parti politique français, social-démocrate, qui a été un parti de pouvoir pendant 15 ans, dise « Je n'aime pas les riches ». C'est honteux, c'est raciste. Comment qualifier ça ? Tout ça fait que, finalement, cette espèce de classe sociale qui est en permanence attaquée, vilipendée, et qui supporte en France ben, tout le poids de l'économie, mais au moins on les respecte, ceux qui paient. Ceux qui paient le schéma infrastructurel de nos routes, ceux qui paient nos CHU, ceux qui paient la culture française, les danseurs étoiles de l'Opéra de Paris, c'est eux. Donc, il n'y a même pas cette espèce de reconnaissance du ventre dans ce pays qui professe l'égalitarisme à tout va. Oui, alors le riche est condamnable, donc alors on le ponctionne. Et puis après, on lui donne un coup de pied au ventre. Voilà, espèce d'équation française que je trouve, moi, vraiment mauvaise et pas exemplaire du tout.
Et voilà. François Hollande, José Bové, Olivier Besancenot ont ceci en commun qu'ils sont, eh oui, il faut le dire, antisémites, mais bien évidemment, puisqu'ils n'aiment pas l'argent. Voilà, Éric Brunet a le bagou, il a ce qu'il faut. Maintenant, la question qu'on peut se poser quand même, c'est est-ce que faut-il que le capitalisme soit malade pour qu'il ait besoin d'être défendu ? En tous les cas, c'est ce que fait Éric Brunet, ce croisé des riches, cet homme qui part en croisade pour défendre le capitalisme et l'enrichissement.
Ouais, si j'étais...
Vous expliquez dans le livre qu'une des raisons pour lesquelles on est dans cette situation, c'est que la majorité des journalistes sont des journalistes de gauche.
C'est vrai qu'un sondage de 2002, c'est le dernier que nous ayons, il n'est pas très récent, bon, témoigne du fait que 6% seulement des journalistes interrogés anonymement par un grand institut de sondage disent être de droite. Donc 6%, c'est pas beaucoup. Alors ça a peut-être changé depuis 2002, mais ça a changé de quelques pourcents. Et puis moi qui suis au milieu des rédactions, je peux vous assurer que ça a changé, mais de façon assez subtile, si ça a changé. Bon, alors, moi c'est pas un jugement de valeur d'abord. Moi, tout le monde sait que je suis plutôt quelqu'un de droite et un peu libéral. Voilà. Mais je ne rêve pas du tout d'un monde de droite et encore moins de rédaction de droite. Je rêve d'un monde un peu pluriel. Je fais ce petit préambule. Il paraît nécessaire. Alors, oui, les intelligences de gauche. Oui, les journalistes de gauche. Oui, les gens qui travaillent dans le monde de la culture et qui sont plutôt de gauche. Oui, les enseignants... parmi lesquels il y a bien sûr des gens de droite, hein, mais oui, les enseignants qui sont quand même plutôt globalement de gauche, véhiculent une vision désuète de l'argent, qui est marquée au sceau des théoriciens marxistes, post-marxistes, ou tout simplement des politiques plus sociaux, enfin la social-démocratie, puisque tous les gens de gauche ne sont pas marxistes ou trotskistes. Mais en tout cas, leur trajectoire personnelle, au sein de la pensée de gauche, les amène quasiment tous, tous à avoir, à entretenir une relation extrêmement méfiante avec l'argent. Ça, c'est fondateur. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire qu'il existerait en France une gauche social-démocrate, blairiste, qui parlerait de l'argent de façon décomplexée. Cette gauche-là n'existe pas. Ou elle existe, mais elle est à droite, elle s'appelle Jean-Marie Bockel, Besson, et elle a rejoint la droite, voilà, clairement. C'est-à-dire que ce Jean-Marie Bockel-là, qui se présente depuis des années comme le Tony Blair français, faut pas oublier qu'il présente des motions dans les congrès du Parti Socialiste depuis des années, sous le thème ou l'intitulé « Pour un socialisme libéral », et il est soutenu par des gens comme Edith Cresson, des gens qui sont sérieux, hein, et des motions qui recueillent entre 0,5 et 1% des voix au sein du Parti Socialiste. Et bon, c'est tout à fait significatif de ce qu'est la gauche française. C'est une gauche qui, sur ce point très précis de l'économie de marché, de l'argent, du capital, est une gauche à l'ancienne.
Alors ?
Moi aussi, j'ai été jeune. Je sortais, j'aimais danser. À ton âge, tiens, j'étais même socialiste. Alors, tu vois, comment voulez-vous que le pays s'en sorte ? Le taux de l'argent, les charges sociales ? Tu rentres tous les soirs de plus en plus tard, toi. Vous connaissez mon fils ? Monsieur Boucher, expert comptable.
La dernière fois que je l'ai vu, il était grand comme ça.
Pendant que tu t'amuses, nous travaillons pour toi. Car ce n'est pas l'État qui m'encourage à te garder l'usine.
Les ennuis ?
Les polyvalents, une fois de plus. À croire que dans ce pays, on fait tout pour décourager les chefs d'industrie. Mais dis donc, tu as bu ? Viens dans mon bureau, on va bavarder.
Pas ce soir, pas.
Allons.
Le tricheur Marcel Carnet, 1958. Éric Brunet, encore pour quelques instants, la défense des riches. Être riche, un tabou français.
Ouais, si j'étais...
Riche. Est-ce que ça, on n'est pas un peu en train de le dépasser en France quand même ? Parce que votre livre arrive à un moment où il pourrait y avoir un basculement, non ?
Alors aujourd'hui, bien évidemment, Sarkozy est aux affaires. Bon, il a des Rolex un peu brillantes. Il a médailles. Il a introduit les Nike à l'Élysée, etc. Donc ça choque beaucoup les gens. Moi, je pense pas qu'il ait vraiment décomplexé les Français sur ce sujet, qui est l'argent. Les Français sont très nostalgiques de ce général de Gaulle, qui payait lui-même son essence pour aller à Colombey le week-end, qui allait lui-même acheter ses timbres, voilà. Et le mythe français, il est plus là. Il est plus ancré là-dedans. Et pour changer des réflexes culturels très profonds, très très profonds, je pense qu'il faut plus qu'un Sarkozy. Je pense qu'il faut une véritable révolution culturelle profonde qui passe par l'enseignement supérieur, etc. Et qui, une fois pour toutes, décomplexe notre relation à l'argent. C'est-à-dire qu'on est dans une culture qui n'aime ni l'argent, ni la croissance, ni l'excellence industrielle, et qui trouve que finalement tout cela est suspect, louche, à la limite de la fraude fiscale, vous voyez ? Voilà.
Et pourquoi vous avez décidé de venir vous installer ici, vous, alors ?
J'ai décidé parce que j'ai supporté Mitterrand pendant 14 ans, et quand j'ai vu que de nouveau il y avait Jospin qui devenait Premier ministre, là j'ai pas supporté. J'ai dit je m'en vais, je reste pas. Jospin, ça a été un coup très dur parce que c'était la France que je voyais se perdre.
Bruxelles, septembre 2007.
Socialisme, d'accord, mais après je croyais quand même. Donc je me suis dit les Français vont se rétablir. L'intelligence de Mitterrand n'étant plus là, ils vont comprendre maintenant. Eh ben non, ils n'ont pas compris. On a recommencé, on a remis ça. Maintenant, là, ce matin, j'entendais que la France était le pays où il y avait plus de dissidence. On bat les records de tous les soucis partout, dans tous les domaines. La France n'est pas dirigée, j'espère que Sarkozy va y arriver, quoi. C'est tout.
Là, ça vous donne pas envie de revenir, vous en parliez ?
Non, moi, pas du tout. Moi, je rentrerai jamais. D'abord, je suis devenue belge. Attendez deux minutes, il faut que je regarde où on va. Le premier. Qu'est-ce que c'est ça ?
Oui, puisque là aujourd'hui, c'est le guide pratique pour l'installation en Belgique des Français. Hein,
voilà. Alors, le premier qu'on va voir, c'est l'avocat. Parce que c'est la première personne qui est importante à voir. Après Jospin, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. Quand vous avez une petite boîte que vous montez, vous avez 25-30 ans, vous arrivez à 58-60 ans, à ce moment-là, on vous dit par ici la bonne soupe, votre travail, monsieur, va récompenser les autres. Mais pas vous. Alors vous allez payer 80, 90, jusqu'à 150% d'impôts pour Darty, hein. C'est indécent. Ça c'est le communisme, ça détruit tout.
Mais il y a des socialistes aussi en Belgique, non?
Il y a des socialistes, mais alors en Belgique, c'est pas du tout pareil. Tout le monde s'entend. Ils n'ont pas la mentalité soviétique. On s'arrange. Et puis, il n'y a pas de lutte des classes en Belgique. Alors ça, vous allez voir ça ici. Il n'y a pas de lutte des classes. Les pauvres en Belgique sont très, très aidés. Très pauvres et très aidés.
Enfin, c'est des pauvres serviables?
J'en vois pas tellement.
Alors, Éric Brunet, à la page 30 de votre livre, on peut lire, je vous cite, « Un riche, ça se cajole un peu, ça se bichonne, on s'arrange pour faire converger ses intérêts avec ceux de la nation. » Alors dites-moi, est-ce que c'est pas un petit peu la définition de la plutocratie, c'est-à-dire un système où ce sont les riches qui dirigent le pays, simplement parce qu'ils sont riches?
Peut-être, mais pour moi c'est la définition du bon sens. On est un pays d'idéologie, on aime l'idéologie, on aime s'engueuler fraternellement, autour d'une table. On aime manier les idées. Mais parfois, il faut induire dans tout ça un tout petit peu de bon sens. Voilà. L'idée, elle est très simple. C'est que vaut mieux un riche à Nevers, à Carpentras, à Arcachon ou à Montluçon qu'un riche à Zurich, en Angleterre ou aux États-Unis. Voilà, sur ce principe-là, on est gagnant. Donc, il faudrait mettre un tout petit peu de bon sens dans notre idéologie.
Éric Brunet, j'aimerais que vous m'éclairiez sur quelque chose. La fortune de Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, a augmenté de 371% entre 2002 et 2007, c'est-à-dire beaucoup plus vite que le PIB français. Alors évidemment, on peut dire que le capitalisme a réussi le miracle de la multiplication des pains, que la richesse est infinie, mais si on ne croit pas à cette idée, est-ce que l'augmentation de la richesse de Bernard Arnault ne se fait pas finalement au détriment d'une plus juste répartition, et notamment d'une répartition des richesses produites par ces sociétés auprès de ses salariés?
Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Si on commence à avoir l'obsession de la répartition, on crève. Voilà, c'est tout. Les richesses, bien évidemment, elles se construisent de façon quasi asymptotique, qui sont enivrantes. Voilà.
Vous pouvez expliquer asymptotique?
Asymptotique, c'est qui tendent vers l'infini. Voilà. Mais c'est comme ça. C'est la réalité du monde libéral. Et donc, simplement, considérons que ces fortunes-là, elles sont bénéfiques. Parce que, de toute façon, cet argent, il finira toujours par irriguer la société française. Il y a plein de façons. Un riche, même si c'est un spéculateur, il consomme. Un riche, il emploie. Un riche, il a des idées. Un riche, il fait du mécénat. Un riche, il finit toujours par irriguer la société française. C'est pour ça que cette espèce de vision que professe l'extrême gauche, obsédée par la répartition, qui dit que les riches se construisent sur le dos des pauvres, elle est caduque. Elle est caduque et on est dans un quiproquo théorique tragique. Je pense qu'il faut que des fortunes puissent se bâtir. Je pense que nous avons tous le droit de devenir riches. Je pense que précisément la richesse, et là c'est un judéo-chrétien qui vous parle, la richesse, même quand elle est abjecte, cynique, quand elle voisine avec la pauvreté, bon, Dieu sait qu'elle est choquante dans ces moments-là. On a tous envie de se révolter. Eh bien, même cette richesse-là, avec ces voitures de sport rouges, eh bien, même cette richesse-là, dans sa dimension choquante, elle est utile parce que elle finit par être bénéfique à la société. Bon, voilà, encore une fois, un riche, il achète des tableaux, il achète une maison, il emploie des gens, il crée une nouvelle société dans un nouveau secteur, il finance des boîtes de pub qui font de la publicité pour ses produits, il tire la France vers l'excellence industrielle parce qu'il est riche, donc il est plus exigeant en matière de services. Donc il veut manger mieux, il veut consommer mieux, etc. Donc il nous tire vers l'excellence, voilà. Un riche, il va pas accepter que le service après-vente pour sa télévision ne soit pas impeccable. Et il a des moyens de pression, le riche. Il dit, il faut que vous soyez bon, parce qu'autrement, je change. Donc, il faut arrêter avec cette culpabilisation permanente qui est implémentée par la gauche. Quoi. Arrêtons de toujours vouloir leur piquer du pognon. Leur pognon, ils nous le donneront toujours un jour.
Voilà,
Vive les riches et vive Éric Brunet. Je rappelle le titre de son bouquin, Être riche, un tabou français. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. C'était un entretien conduit par Renaud Lambert, Xavier Lévesque et Christian Thibaudeau étaient à la technique aujourd'hui. C'est Yann Chouka et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry. Et c'est Christophe Imbert qui se tient près du répondeur, attendant vos messages au 01 56 40 37 37. Vous pouvez également écouter cette émission sur le site labas.org, la-bas.org, le site non officiel de Là-bas si j'y suis. Et je vous rappelle, dans les messages que vous pouvez laisser dans le répondeur de Là-bas si j'y suis, n'oubliez pas les renseignements généreux. Vous savez, ces petites infos que vous donnez de temps en temps, c'est toujours très bien. C'est-à-dire des choses très précises, bien documentées, bien sourcées et bien efficaces. Réclame.